sur les ondes de Radio Galère pour cette édition hebdomadaire de Comme à guerre sur l'actualité internationale. Et on retrouve avec plaisir dans la cabine technique Clélie qui nous a retrouvés et qu'on remercie, qu'on est très content de revoir. Et puis Habib est là, fidèlement, avec en plus une actualité qui lui touche très très directement. On y reviendra. Alors je vais commencer par une petite info au sujet de Marseille, puisque je sais que les auditeurs ne sont pas tous à Marseille. Nous avons eu le privilège, je mets ça avec d'énormes guillemets, d'accueillir à Marseille, je crois qu'il est parti ce matin, un porte-avions des États-Unis qui s'appelle le Harry Truman, qui n'en est pas à sa première visite puisqu'il vient assez régulièrement, enfin tous les quelques années on le voit arriver dans le port de Marseille. Pourquoi il vient à Marseille? Non, Marseille n'est pas un port de guerre, mais cet énorme engin, 332 mètres de long et autant, enfin, très large aussi, ne peut pas rentrer dans beaucoup de ports. À Marseille, il arrive à se mettre à un seul endroit d'ailleurs, qui est l'endroit où par ailleurs on installe les bateaux de croisière gigantesques dont vous avez vu quelque part les photos certainement. Et il n'y a pas d'autre endroit pour le mettre. Alors il est là, il y a passé quelques jours et c'est une façon pour l'équipage, vous savez que sur un porte-avions, il y a d'une part l'équipage marin qui fait marcher le bateau, et puis il y a l'aviation embarquée qui va s'occuper d'aller jeter des bombes, là on lui dira de le faire. Et puis il y a tout autour une petite flotte qui l'accompagne, mais là les autres on les fait pas rentrer. Et alors ces jeunes gens et ces jeunes femmes, il y a une majorité de jeunes gens mais il y a quelques jeunes femmes aussi, viennent là, c'est une première, c'est une escale de repos. Un week-end prolongé pour aller faire des courses, aller boire un coup. Certains sont même allés à Paris en prenant un TGV, etc. Et c'est avant d'aller sur les zones de combat. Car où va-t-il, le Harry Truman? Eh bien, il va au large de la Palestine, il va au large d'Israël, il va au large de la Syrie. Vous comprenez bien à quoi là il va ou il peut servir éventuellement. Il va au moins servir à démontrer que les États-Unis s'intéressent à la situation là-bas. Ça, on l'avait compris, je vais y revenir abondamment dans l'émission. Mais c'est un signe nouveau confirmant que l'engagement des États-Unis dans la crise proche-orientale est total. Il vient remplacer d'ailleurs un autre porte-avions qui était lui, pas en Méditerranée orientale, qui était le, je crois, le Abraham Lincoln, qui était lui en Golfe d'Aden et dans la mer Rouge, qui est parti parce qu'il était peut-être un peu trop près du Yémen et un peu trop près des missiles outils. Bon, donc un porte-avions remplace l'autre. La France ne peut pas se payer ce luxe puisque son porte-avions vient de partir pour aller faire des ronds dans l'océan Pacifique, mais il n'était pas sorti depuis un an de Toulon. Et donc, de temps en temps, la France a un porte-avions. Alors, j'insiste sur le fait qu'un porte-avions qui, de temps en temps, est là et de temps en temps, est en réparation, ça ne sert à rien ou pas grand-chose, si ce n'est à dire « Ah, c'est le porte-avions d'Oncle Emmanuel !» C'est à peu près ça. Vous savez, Oncle Emmanuel a un nouveau jouet, c'est un porte-avions. Voilà. Avant, voilà. Plus petit, il avait des soldats de plomb, il avait des choses comme ça. Maintenant, il a un porte-avions. Voilà. Merci, merci tonton. Oh. Bien, ça pour dire que alors, la visite de Harry Truman, elle n'a pas été beaucoup commentée par la presse et il a fallu qu'un beau soir dans les rues de Marseille, deux marins, alors ils ne circulent pas en uniforme quand ils sont à l'escale, mais enfin, il y a quand même un certain look du marin en escale, ont été agressés. Alors ça a tout de suite fait, là, cette information-là a fait le tour des médias français, deux marins des États-Unis agressés, ça peut arriver, et puis on ne sait pas, Rix entre ivrogne, ça peut arriver aussi à ces heures-là. Voilà. Bon. Mais ça, cette info-là a circulé. L'info sur la présence du porte-avions jusqu'à l'agression des deux marins n'avait pas beaucoup circulé. Et je m'arrête une dernière fois sur Harry Truman, car ce personnage a un rôle particulier dans l'histoire, puisque de tous les présidents des États-Unis, il est le seul, et il est même aujourd'hui le seul homme au monde, qui ait décidé de lancer deux bombes atomiques sur le Japon. Donc, il restera dans l'histoire comme un personnage bien particulier. Il avait remplacé, on le sait, très peu de temps avant qu'il décide qu'il accède au poste de président des États-Unis. Il avait remplacé Roosevelt, qui était très malade et qui était mort quelques mois plus tôt. Et son premier acte politique, ça a été la décision de lancer la bombe d'Hiroshima et la bombe de Nagasaki, les 6 et 9 août 1945. il restera dans l'histoire de l'humanité comme celui qui a osé utiliser cette arme, puisque après ça, plus personne n'a osé le faire. Même les présidents des États-Unis ont assez souvent menacé, annoncé qu'ils allaient renvoyer Pierre, Paul ou Jacques à l'âge de pierre. Aucun ne l'a fait. Alors aucun ne l'a fait, non pas parce qu'ils sont devenus plus civilisés que Harry Truman, mais parce qu'ils avaient en face un adversaire qui disait « Ah ben si vous tirez, je ferai la même chose et on mourra tous les deux hein ». C'est un raisonnement qu'a tenu plusieurs fois publiquement Vladimir Poutine en disant « Tu me tues, tu meurs, on est morts tous les deux, quel est l'avantage ?» Pas grave, et puis on est morts tous les deux. Et les dizaines de millions de gens autour en plus. Bon. Donc on n'en est pas là, et j'en profite pour dire que pour nous, Comaguer et pour moi, je considère que l'usage de l'arme atomique aujourd'hui est peut-être considéré comme impraticable. Impraticable, c'est-à-dire que cette menace réelle d'assassinat mutuel par centaines de millions de personnes et de pollution de la planète pour des décennies pour tous ceux qui resteront, sans compter l'affaiblissement du climat parce que des bombes de 10 ou 100 fois la puissance de celle d'Hiroshima engendreraient un nuage qui masquerait la lumière du soleil pendant des années et des années. D'où diminution de la photosynthèse. Voilà, donc c'est une mort immédiate pour un certain nombre de gens et puis c'est une mort assez rapide pour le reste de l'humanité. Donc, je pense que tout ça a été intégré. Ça a été intégré dans la tête de ceux qui ont le doigt sur le bouton, comme on dit. Malheureusement, ça sert encore trop facilement d'arguments politiques, mais de la politique émotionnelle. Attention, l'arme atomique. Hein. Or, aucun de ceux qui l'a, aucun de ceux qui raisonnent un peu, qui savent ce que ça veut dire, ce que ça voudrait dire, n'a le projet de l'utiliser. Ça suppose bien sûr ce qu'on appelle, on n'appelle plus comme ça, l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait l'arme atomique et pas l'autre. Mais dès l'instant où il y a un certain nombre qui l'ont et qui se surveillent mutuellement, on peut effectivement considérer qu'il y a neutralisation de l'arme atomique. Après, le rêve, mais je peux rêver 30 secondes, le rêve serait que maintenant que vous savez tous que ça ne sert à rien, bon, arrêtez tous et arrêtez le gaspillage financier qui va avec. Mais on n'en est pas encore là, l'humanité n'est pas suffisamment apaisée, surtout pas à la période où je vous parle. Bien. C'était donc pour faire rappeler ce petit fait marseillais, nous avions le Harry Truman sur place. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées ces derniers jours. Alors, je vais les prendre très rapidement dans l'ordre. Je vais commencer par dire deux mots de la COP29, parce que ça n'a pas beaucoup passionné les journalistes et pas beaucoup les foules, qui s'est terminée sur un échec flagrant, très très net, puisque en fait, cette COP29 mettait face à face ceux qui disent qu'il y a un vrai problème climatique et qui disent aux autres, et en particulier aux pays les moins développés, faites un effort. Alors, il faut bien situer le rapport de force. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont parmi les plus gros pollueurs parce qu'ils ont des industries extrêmement développées. Je pense aux États-Unis et quelques autres. Et puis, vous avez en face des gens qui, un petit pays de quelques millions d'habitants qui a une mine de charbon, une raffinerie de pétrole, à qui on dit « Arrête !» Il ne faut plus ça, arrête, il ne faut plus ça, passe au solaire, passe à l'éolien, passe à ci et ça. Et le pays en question dit, ben oui, je veux bien passer au solaire, passer et fermer ma mine de charbon, mais je n'ai pas les moyens. C'était ça le fond du problème, du débat qui a eu lieu à Bakou, en Azerbaïdjan. Et ce débat n'a pas abouti, puisque finalement, ceux qui donnaient des leçons, disant, faites un effort pour le climat, ne l'ont pas manifesté qu'ils faisaient eux-mêmes de grands efforts. Et puis, ils ont dit « Non, on ne vous aidera pas ». Et les autres ont dit bah, « Si vous ne nous aidez pas, on ne pourra rien faire, c'est tout. On va continuer avec notre mine de charbon et notre raffinerie de pétrole ». Donc, la COP29 s'est terminée sur un constat d'échec et des positions extrêmement critiques. Alors, il y a un certain nombre de pays qui ont dit et écrit en disant « On ne nous reprendra plus à ce jeu-là hein. ». Ceux qui sont les plus gros pollueurs, que ce soit pour des raisons civiles, voire militaires, puisque l'armée est un gros consommateur de kérosène et de tout autre combustible. Bon, ceux qui donnent des leçons ne veulent pas aider ceux qui souffrent et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, effectivement, ils ne sont pas pris au sérieux. Alors, quels sont les pays, je les situe parce qu'ils méritent d'être salués, qui ont fait un papier en disant qu'à ce jeu-là, ça ne valait pas la peine de discuter, ce qui en dit long sur les difficultés de la future COP30 qui aura lieu au Brésil l'année prochaine, parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passera de mieux. Donc, il y a 5 pays qui ont fait un papier en disant « Nous, on ne joue pas à ce jeu-là », c'est-à-dire que ceux qui polluent beaucoup plus que nous nous obligent de polluer et ne nous aident pas à le faire. Alors que nous, on est prêts, évidemment, sur le principe. Alors, ça a été initié par l'Inde, ce qui n'est pas tout à fait rien. Alors, l'Inde a beaucoup de charbon, on le sait, elle utilise du charbon. Elle est en train de passer assez massivement au nucléaire avec la contribution technique de la Russie. Et puis, ça a été signé par le Nigeria, ça a été signé par la Bolivie, ça a été signé par Cuba. Voilà. Donc, coup de chapeau à ceux qui ont dit « Écoutez, messieurs, soyez cohérents, vous ne pouvez pas nous donner des leçons si vous-même ne faites pas des efforts réels. » Et donc, vous restez quand même parmi vous, ceux qui nous donnent des leçons, parmi les gros pollueurs. Alors, commencez par chez vous. Alors, en fait, ils accumulent les informations en disant « Quand l'Allemagne, par exemple, qui a tout misé sur l'éolien, s'aperçoit que quand le vent est plus faible, elle est obligée de rouvrir des mines de charbon, nos amis du Nigeria, de l'Inde et de Cuba ont beau jeu de dire « Dites vos leçons sur la pollution par le charbon, ça se discute puisque vous-même venez de réouvrir des mines de charbon. » Et toute une série de cas comme ça. Bon, j'en dis pas plus. Donc, il y a un échec qui est lié à ce rapport de force politique et pas du tout sur la question climatique elle-même, c'est un rapport de force politique. Il y a des gens riches qui veulent donner à des gens pauvres des leçons sur la façon de lutter contre la pollution et qui leur disent « Par contre, je vous donnerai pas un sou, débrouillez-vous tout seul. » C'est une façon de faire qui, effectivement, n'a pas beaucoup d'efficacité et est très humiliante pour les gens sincères qui sont de l'autre côté de la table et qui voudraient bien faire quelque chose. Bon, ils ne peuvent pas, ils ne feront pas. Ça, c'est très important de le noter. Ça en dit long, d'ailleurs, sur ces procédures où, en fait, j'y pensais, ça me fait venir à un personnage qui est aujourd'hui... aujourd'hui et demain, se tient à Riyad, vous connaissez la capitale de l'Arabie saoudite, un sommet sur l'eau. Un sommet sur l'eau. Alors l'eau, on connaît le discours, bien rare, 1% d'eau potable sur les 99% d'eau salée sur la planète, etc. Bon, ça on le connaît, et il faut faire attention à l'eau, ça tout le monde a compris. Mais quand on réunit alors à Riyad une conférence sur l'eau, et que M. Macron y participe pour montrer que lui, il fait beaucoup de choses sur l'eau, et qui laisse la République française en état de déshérence, sans gouvernement demain soir, en état de crise politique qu'il a lui-même orchestré. On dit que M. Macron va aller faire un joli discours, et sa politique de l'eau, on n'en voit pas la couleur. Donc il y a là aussi des espèces de jeux de pouvoir. Je me montre dans une initiative qui touche d'une certaine façon à la survie de l'espèce. Là, on est tout à... Vous savez qu'un homme sans eau meurt au bout de 3 jours. C'est tout, point. Donc, effectivement, il faut faire attention et il faut que les 8 milliards aient leur quantité d'eau potable disponible. Bon. Ça reste un enjeu important. Mais ce n'est pas en faisant joujou pendant 2 jours avec le roi d'Arabie saoudite, le président du Kazakhstan, je ne sais pas quel est le troisième larron. Ah si, j'allais le dire. Le premier ministre pakistanais, c'est pour ça que j'y pensais. Le premier ministre pakistanais est arrivé comme une fleur donc ce matin à Riyad pour parler des gros problèmes de l'eau. Il y a effectivement des problèmes de sécheresse au Pakistan, qui est un pays aride dans un certain nombre de ses régions, qui est alimenté par un seul fleuve, qui est l'Indus et quelques affluents. Et donc, il y a des vrais problèmes de l'eau. Mais il est arrivé là en laissant un chantier épouvantable chez lui, puisque l'armée et la police pakistanaise ont maltraité des manifestations de masse qui se sont passées pendant 3 jours à l'appel du parti du président mis sur la touche, donc Imran Khan. Je vous rappelle les faits, il y a de ça donc 2 ans maintenant, un président très populaire qui était en train de sortir le Pakistan d'abord des griffes de l'armée pakistanaise, des services secrets occidentaux, et qui était décidé à avoir un autre rapport, d'une part avec l'Inde, son voisin, on le sait, les rapports sont difficiles, avoir d'autres rapports avec les grands pays de la communauté internationale, a été mis à la porte par un coup d'État parlementaire non sanglant. Depuis, il est en prison. Et donc, son parti, qui est un parti très fort, organise des manifestations pour le faire sortir de prison, puisque les inculpations qui amènent à ce qu'il soit en prison préventive ne sont pas toutes très sérieuses, à telle enseigne que, à la suite des manifestations qui ont eu lieu donc, pendant 3 jours dans les principales villes du pays, en particulier dans la capitale, à Islamabad, tous les incidents qui ont eu lieu dans la rue, enfin, je dis incidents, attention, manifestations de masse, police... 15 ou 20 morts quand même. Hein. L'utilisation d'armes à feu, ce n'est pas simplement une manifestation tranquille.
Lui-même, il a été blessé aussi. Hein.
Voilà. Et donc, les incidents sont mis à la charge de M. Imran Khan, qui est en prison, et on lui rajoute des motifs d'inculpation supplémentaires pour qu'il reste en prison plus longtemps. Ouais. Voilà. C'est une espèce de jeu de fou qui ne débouche pas sur grand-chose. Mais le Premier ministre pakistanais, ça ne l'a pas empêché de partir en voyage et d'aller faire le joli cœur en parlant des problèmes de l'eau dans son pays. Voilà. Et donc on parlera pas de lui. D'ailleurs, j'ai cherché beaucoup dans la presse occidentale des comptes rendus de ces manifestations de masse du parti de Imran Khan. Il y avait très très peu de choses. J'ai trouvé des sources dans les quotidiens indiens, mais pas beaucoup d'autres choses. Hein. Or, c'est là que ça se joue, parce que le Pakistan, c'est quand même 200 millions d'habitants. C'est un grand pays musulman, avec des capacités militaires. L'arme atomique, il l'a aussi, même si, heureusement, il ne s'en est pas servi contre son voisin, qu'il a aussi. Bon, tout ça fait que négliger, ne pas parler, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas au Pakistan, parce qu'il est... pas fiable. Alors, le principal, c'est ça qu'il faut dire, le principal reproche qui a été fait contre M. Imran Khan et qui a amené donc au coup d'État parlementaire auquel je faisais allusion, c'est qu'il est allé rendre visite au président russe. Or ça, crime de lèse-majesté, ça ne se fait pas. M. Imran Khan, ce n'est pas poli d'aller à Moscou rencontrer le président. C'est tout. Hein. Nous, à Washington, on considérait qu'on vous tenait bien en main, que vous étiez sur de bons rails, sous la surveillance de vos services secrets et de l'armée, qui est à peu près sous notre contrôle. Et puis, voilà pas que vous allez rendre visite à M. Poutine, vous faites photographier, vous avez l'air souriant, vous lui serrez la main. M. Imran Khan, c'est pas poli. C'est pas, on ne fait pas ça, M. Imran Khan. Vous avez compris. Bon. Alors, j'ajoute, c'est presque du Courteline, qu'il est en prison. Un des motifs, c'est qu'il a épousé en deuxième noce, sa femme a été morte, une veuve pakistanaise, musulmane. Et apparemment, on en parlait avec Habib, il y a dans le Coran une disposition qui fait qu'une veuve ne peut pas épouser quelqu'un d'autre avant une certaine date. Et ils se sont trompés sur la date. Ils se sont trompés de quelques jours sur la date, et donc, prison, allez, ça se fait pas. Bon, non, c'est pour éviter qu'il y ait des enfants donc qu'on ne connaisse pas le faire, ça se comprend. Oui. Il n'y a pas besoin, je crois que c'était un an la date, il n'y a plus de doute au bout d'un an. Bon. Mais, donc on l'a mis en prison aussi pour ça. Bien, j'en ai fini avec le Pakistan, mais je voulais en parler parce que c'est passé totalement en dehors des grands médias d'information. Il ne s'est rien passé au Pakistan. Manifestation de rue, plusieurs dizaines de morts, la police tire dans la foule. C'est rien, c'est un petit détail. Bon. Hélas. Autre chose, alors, puisqu'on était dans les manifestations de rue, on a assisté ces derniers jours, et puis je pense maintenant c'est à peu près terminé, à des manifestations de rue organisées à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Alors, vous situez la Géorgie, ce tout petit pays sur la rive nord de la mer Noire, avec un voisin important qui s'appelle la Russie, tout de suite à l'ouest. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, je remonte un peu avant. Il est arrivé donc à la tête de la Géorgie un gouvernement dirigé par un Géorgien tout comme il faut, qui s'appelle M. Irakli Kobakidze, et qui a commencé à dire qu'il y avait des ONG qui étaient très très remontes dans son pays, et qui avaient même des moyens assez étonnants, et qui a commencé à dire, les ONG, c'est très bien sur le principe, mais d'accord pour qu'il y ait des ONG, si je sais après, à peu près qui les paye. Ça veut dire qu'il parlait en connaissance de cause, hein, parce que vous savez que dans la catégorie des ONG, il y a des ONGG, comme on dit, organisations non gouvernementales du gouvernement d'un autre. Hein, c'est les ONGG, ça. Bon. Et donc, l'enquête qu'ils avaient faite avait démontré qu'effectivement, une bonne partie de ces ONG si remontes était en fait financée par les États-Unis et par la NED, hein, le fameux fonds de soutien à la démocratie. Bon. Et donc, le Parlement géorgien avait passé une loi en disant on n'interdit pas les ONG, mais 5 ONG qui se constituent et qui veut vivre sur le territoire de la Géorgie nous présente son budget, ses financements, ses objectifs et tout, pour être sûr qu'elle n'est pas téléguidée de l'extérieur. Déjà, ça avait mis le feu aux poudres, puisqu'il y avait parmi ces ONG des ONG qui ne se sentaient pas très tranquilles par rapport à ce genre d'examen. Ah, on va nous demander d'où vient l'argent. Ben oui, c'est normal, on vient demander d'où. Surtout si vous avez une position très très critique sur le gouvernement. Vous pouvez être financé par un autre gouvernement que le nôtre. Bon. Ça, c'était déjà un premier signe que M. Kopatkidze allait avoir des ennuis. Et puis, il y a eu donc des élections qui l'ont renouvelé au pouvoir. Et à un moment donné, la présidente de la Géorgie, Madame Salomé Zourabichvili, une franco-géorgienne issue de la grande aristocratie géorgienne d'avant la révolution bolchevique, donc c'est pour ça qu'elle est française, parce que sa famille a immigré, qui était donc la nièce de Madame Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française jusqu'à ses derniers jours, et écrivain connu. Bon, Madame Hélène Carrère d'Ancos s'appelait Carrère d'Ancos parce que son mari français s'appelait Carrère d'Ancos. Mais elle s'appelait Hélène Zourabichvili, comme Salomé Zourabichvili. Bon. Et donc cette dame, qui était donc française, née en France, comme sa tante, etc., était rentrée dans la diplomatie française, elle avait fait Sciences Po, et elle avait tout de suite été embauchée par le ministère des Affaires étrangères, et elle était dans le cabinet de Alain Juppé. Et chez Alain Juppé, elle s'occupait des questions liées à l'OTAN. Et elle représentait souvent la France dans des réunions à Bruxelles, à l'OTAN. Donc c'est une dame qui est peut-être géorgienne, oui. Alors elle n'était pas, en fait, elle était de famille géorgienne. Et un beau matin, je raconte, Madame Salomé Zourabichvili prend l'avion pour Tbilissi. À l'arrivée, le président à l'époque de la Géorgie, qui s'appelait M. Saakashvili, la reçoit. Et au pied de la coupée, donc de l'avion qui l'a amené de Paris, il lui donne des papiers géorgiens. Elle est devenue géorgienne à la sortie de l'avion.
En quelques heures.
Alors, ça, c'était gentil, c'était une façon gentille de l'accueillir. Mais elle est aussi très vite devenue ministre des Affaires étrangères du monsieur Saakashvili. Et puis après, elle a été élue par un vote interne. Il n'y a pas d'élection au suffrage direct. Elle a été élue à la présidence de la République. Alors, c'est un poste assez faible. C'est un poste plus représentatif qu'autre chose. Mais elle est aujourd'hui au cœur des actions de l'Union européenne et des États-Unis pour essayer de faire tomber le gouvernement légitime de M. Irakli Kobakidze. Et c'est là-dessus qu'on arrive aux manifestations qui ont eu lieu donc ce week-end, qui ont été des manifestations au début tranquille, annoncé comme pacifiste, jusqu'au moment où la police a commencé à recevoir des tirs d'armes à feu venant des manifestants. Et là, on change complètement de style. Et là, on est dans ce qu'on appelle le Maïdan géorgien, hein, puisque une manifestation pacifique où les gens viennent, enfin les gens, une certaine partie des manifestants viennent armés et se mettent à tirer avec des revolvers sur la police, on change tout à fait de style. Alors, je pense que le gouvernement géorgien s'y attendait. Il a fait ce qu'il faut pour que ça s'arrête. Et aujourd'hui, je pense que c'est calmé. Et ce qui avait déclenché cette dernière manifestation, c'était pas l'histoire des ONG. Ça, c'était à peu près classé. C'était rentré dans les faits, bien que ça ait été très mal digéré. C'est que, à la suite des premières manifestations, ben, celle qui s'est passée ce week-end était une de celles qui, mais il y en avait eu d'autres. À la suite de ces manifestations, le gouvernement géorgien avait dit, puisque c'est comme ça, et puisque surtout l'Union européenne me donne des leçons sur comment il faut faire, comment il ne faut pas faire, comment je dois gouverner, etc., je suspends mes négociations avec l'Union européenne. Alors là, c'était péché mortel. On ne suspend pas des élections, des adhésions à l'Union européenne. Ça ne se pardonne pas. Hein, Madame von der Leyen n'aime pas ça du tout. Monsieur Macron n'aime pas ça du tout. Hein. Prendre sa distance par rapport à l'Union européenne dans l'État où elle est, ça ne se fait pas. Monsieur Kobakidze, c'est pas poli. Voilà. Donc, monsieur Kobakidze, vous allez avoir droit à vos manifestants armés. Bon. Alors, apparemment, il a maîtrisé le phénomène et je pense que ça va le conforter dans sa position de dire, bon, l'Union européenne, on verra plus tard, mais ce n'est pas le moment d'y aller, surtout dans l'état actuel de la région qui n'est pas facile. Là aussi, ça a été peu raconté, mais j'ai trouvé ça sur un site arménien de nouvelles pour expliquer le déroulement des événements. Ça fait partie de cette agitation qui est caractéristique de la période dans laquelle nous vivons. Et j'en arrive à cette caractéristique, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre maintenant, même si on n'a pas voulu le voir dans les premiers jours, que du jour de l'élection de Donald Trump, antécédent, enfin qui précède plutôt son arrivée réelle au pouvoir, l'équipe de Biden, Blinken et tout, s'est déchaînée pour dire il y a un certain nombre de choses qu'il faut absolument que je fasse, de dossiers que je règle, de gens que je fasse tomber, de gouvernements que je renverse, parce que je ne sais pas, et ils ne savent pas, et nous non plus d'ailleurs, ce que Trump fera. De toute façon, il ne fera pas ce qu'on l'obligera de faire. Ce n'est pas nous qui commandons, c'est lui à partir du 21 janvier. Donc, pendant la période où nous sommes encore au pouvoir, bien ce matin, nous faisons le maximum de choses qui vont dans le sens de notre politique. C'est-à-dire faire tomber le gouvernement géorgien, faire adhérer la Moldavie à l'Union européenne, essayer d'éviter la crise en Roumanie, on en parlera un peu plus tard, garder M. Imran Khan en prison, tout ça fait partie du jeu. Et essayer d'éviter les mauvaises, pas les mauvaises fréquentations. Le nouveau Premier ministre japonais est un Premier ministre faible, bien qu'issu du parti qui est au pouvoir depuis pratiquement 1945, à quelques semestres près. Et ce ministre-là, le Premier ministre nouveau, M. Ishida, est un Premier ministre minoritaire, une espèce de Michel Barnier à la japonaise, si vous voulez. Il est minoritaire et donc il se pose des questions sur la politique à suivre, mais on lui a bien fait comprendre à Washington ce propos qui est conforté par la présence de 35 000 soldats états-uniens sur le sol du Japon, donc ça donne à réfléchir malgré tout. On lui a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas qu'il se mette à avoir de bonnes relations avec son voisin chinois, avec la Corée du Nord, crime absolument impardonnable, avec la Russie encore moins. Et donc on a affaire aussi à un personnage instable qui est sous surveillance étroite des États-Unis. Donc, je reviens à mon propos de base, c'est-à-dire que jusqu'au 20 janvier, l'administration des États-Unis fera énormément d'agitation, j'allais dire, ça c'est ma position, fera énormément de bêtises, mettra le feu dans des tas d'endroits en pensant que le lendemain, peut-être dès le 22 janvier, Trump dira ça, on arrête. Parce que Trump est dans une situation, alors, qui est-il ? Je ne sais pas, je ne peux qu'observer de l'extérieur. Je sais que dans sa première présidence, il a accumulé les gaffes en matière de politique étrangère. La première gaffe, et pas la moindre, puisque ça fait référence à la situation en Ukraine, c'est qu'il a retiré la signature des États-Unis dans ce qu'on appelle le traité sur les armes intermédiaires, c'est-à-dire sur les armes atomiques utilisables sur le continent européen. On est exactement dans ce cas-là en Ukraine, et on en est là de la crise ukrainienne. Donc ça, c'est une énorme faute, parce qu'à partir du moment où il n'y avait plus... Alors, le traité sur les armes nucléaires intermédiaires, ça voulait dire que les États-Unis d'un côté, l'OTAN pour faire joli, et l'URSS de l'autre, acceptaient que chacun des deux signataires aille regarder dans les entrepôts de l'autre pour savoir combien de missiles il avait, et est-ce qu'il en avait beaucoup, est-ce qu'il en fabriquait encore, est-ce qu'il en avait qui était mis au rebut, etc. Donc on avait un équilibre qui ressemblait à l'équilibre atomique général sur ce secteur-là de l'armement nucléaire, l'armement à moyenne portée, donc moins de 3000 km ou 3500 km, utilisable uniquement sur le continent européen. Dès l'instant où les États-Unis se retirent, la Russie est fondée à dire « Bon, moi, je reprends ma liberté de manœuvre, je fais ce que je veux, puisque de toute façon, vous avez refusé qu'on joue ensemble et qu'on se mette les cartes sur la table. » Ça, c'est une première grosse faute de Trump 1. Deuxième grosse faute de Trump 1, c'est la question palestinienne. Puisque c'est Trump 1 qui décide, malgré les X déclarations de l'ONU et toute la politique de l'ONU depuis 1947, consiste à dire « Jérusalem-Est ne fait pas partie du territoire israélien ». Bon. En décidant d'installer, et elle a été installée, l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, Trump s'est assis sur l'ONU et sur toute sa politique qui n'a pas changé. La politique de l'ONU, ça consiste toujours à dire Jérusalem-Est, c'est un territoire particulier qui n'appartient pas à Israël. Bon. C'est énorme, énorme faute aussi. Alors, il n'y a pas eu de conséquences physiques, mais le fait qu'il ait cédé totalement à la pression israélienne et à la position israélienne est un très mauvais signe pour la suite des événements, parce qu'il revient au pouvoir le 21 janvier. La question palestinienne n'est, on le sait, pas réglée du tout. Bon. Alors, est-ce que, alors ça débouche sur cette question, est-ce que Trump est améliorable? Bon. Alors, qui il est? Alors, est-ce qu'il est améliorable? C'est pas un monsieur tout seul. La présidence des États-Unis, c'est pas un monsieur tout seul à la tête de 300 millions qui suivent. C'est un système compliqué de pouvoir, d'administration, de services de renseignement et tout. Alors, il a fait... C'est un système... Alors, il commence à annoncer le recrutement de son équipe, donc des gens qui vont effectivement mener sa politique. Et on ne peut pas, vu les embauches qu'il a faites ou les sélections qu'il a faites, on ne peut pas du tout tirer une conclusion claire. C'est-à-dire qu'il a ajouté... Il a fait plusieurs strates. Et donc, le gâteau Trump 2, c'est une couche de va-t-en-guerre, de pousse au crime épouvantable, les pires des républicains qui existent, prêts à tirer sur tout le monde, à jeter des bombes partout, etc. Et puis, il a fait une deuxième couche assez bizarre, où il vient de mettre comme conseiller spécial pour le Moyen-Orient un Libanais plutôt progressiste, hein. Donc, c'est inattendu et ça va sûrement beaucoup, beaucoup choquer les sionistes, hein, ça, de mettre un Libanais. Et puis, il a mis donc le neveu de John Fitzgerald Kennedy pour les questions de santé. Il a pris Elon Musk pour le conseiller sur les questions d'argent. Hein, évidemment, on prend un milliard. Les milliardaires font confiance aux milliardaires. Hein. Donc, le petit milliardaire Trump dit « Ah, je me mets un gros milliardaire dans ma manche et donc les affaires des milliardaires vont prospérer. Bon. » Tout ça donne un paysage très difficile à interpréter et laisse penser qu'on va avoir quelques moments de flottement dans l'arrivée de Trump. Et ces moments de flottement vont dépendre très largement à l'ensemble des catastrophes que l'équipe Biden sortante aura organisées. Alors encore, il y a encore 6 semaines de catastrophes Biden à arriver. On n'a pas tout vu. Et donc il va se trouver avec un énorme chantier, avec son équipe disparate de va-t-en-guerre et puis de gens qui réfléchissent un peu. Et donc il va avoir de la peine à tracer son chemin. Après, on fait des hypothèses. Alors j'en entends par-ci par-là des hypothèses sur la psychologie de Donald Trump. Qu'est-ce que c'est que la psychologie de Donald Trump? Alors, Donald Trump, c'est effectivement un blanc raciste, très très clairement, ça, tous ses propos le prouvent. C'est en même temps un monsieur qui aime l'argent, j'allais dire, pour faire une catégorisation psychologique simple, c'est un jouisseur. Au fond, il n'a pas trop envie, il aime dans les rapports d'affaires, parce qu'il peut arriver, vous êtes milliardaire dans l'hôtellerie. Je prends un exemple pour me faire comprendre. Vous convoitez un terrain pour faire un nouvel hôtel à Atlanta ou à Miami, et puis il y a un autre groupe hôtelier qui convoite le même terrain, il n'y en a qu'un, et c'est l'emplacement où il faut absolument être. Oui, bon, l'emplacement à Manhattan, bon, il a déjà sa tour à Manhattan. Bon. Et comment vous comportez dans ce type, ça, là il est habitué, là il n'a fait que ça dans toute son existence de milliardaire. Comment vous comportez? Bon. Alors, soit vous dites, vous embauchez des voyous pour aller faire abattre le concurrent, mais ce n'est pas le style non plus, ça ne se fait pas. Donc, vous allez trouver un modus vivendi, vous allez gagner là-dessus, mais vous allez dire, mais l'autre terrain, alors par contre, il y avait un terrain à Los Angeles que je convoitais, bon, je te le laisse. On va, l'économie du deal, c'est la politique du deal. Bon, je te laisse ça, moi je prends ça, et puis on n'est pas fâchés, on est tous les deux milliardaires, on va bien, tout va bien, on continue comme ça. C'est beaucoup plus ça. Donc on a affaire à un personnage qui, appliqué, ce personnage de milliardaire appliqué à la politique, c'est un personnage pragmatique, qui dit où est mon intérêt, est-ce que là je peux avancer, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre et tout. Et à ce moment-là, il se retrouve, c'est très très intéressant, dans une position que les présidents des États-Unis n'ont jamais intégrée dans leur tête. C'est-à-dire, il se trouve aujourd'hui, parce qu'on est en 2024 avec la situation internationale et les leaders que vous y connaissez, avec des personnages qui pèsent aussi dans l'histoire du monde. Et donc je pense qu'un Donald Trump comme ça, pragmatique, disant « Ah oui, mais j'ai aussi un Russe qui pèse son poids, qui ne fait pas ce qu'on lui demande, qui ne nous obéit pas, on a aussi un Chinois ». Puis on a aussi des Brésiliens, puis on a aussi ça. Bon, où est-ce que je peux placer mes intérêts? Mais je ne suis pas seul à avoir la parole. Et donc, le personnage pragmatique peut avoir cet avantage. Alors, c'est une hypothèse que j'avance aujourd'hui à force de tourner ça dans ma tête, savoir cet avantage de tenir compte des rapports de force réellement existants, de placer ses affaires, et je pense que les Chinois savent très bien faire en disant « ça, vous laissez faire ça, puis vous faites ça, d'accord, on s'est partagé le truc, mais pas plus que ça ». Donc ça c'est à voir comme une hypothèse intéressante, personnage qui va faire avec ce qu'il a, et surtout, et c'est la dernière observation que je voulais faire, je reviens sur son slogan. Alors le slogan, vous savez, ça s'appelle MAGA, MAGA, Make America Great Again. Hein, rendre l'Amérique à nouveau grande.
Ouais.
Et ça on n'a pas réalisé ce que ça voulait dire. Alors, ça a éveillé d'espèces de fierté des citoyens des États-Unis. Hein. Et en fait, ça a été en même temps un aveu. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'un président des États-Unis dit « Il faut à nouveau rendre l'Amérique grande. » C'est-à-dire qu'il reconnaît dans son propos qu'elle ne l'est plus. Et donc ça, pour l'establishment, comme on dit, pour la classe dirigeante américaine, qui, dans sa tête, et je pense que c'est même, ça ressort de la psychologie collective et d'une espèce d'intoxication mentale collective, pour eux, les Biden, les Obama, etc., pour eux, l'Amérique est grande, elle est suprémaciste, elle domine le monde, elle a un destin exceptionnel. Et donc, dès l'instant où il y a un monsieur qui est un fils d'immigrant allemand, d'ailleurs, hein, puis, qui, par ailleurs, pas très sympa, pas très intéressant en tant qu'elle, qui dit, vous savez, on est plus qu'on était. Ça leur est insupportable. Et d'où l'espèce de déchaînement. Alors, dire à partir de ça, Trump est un fasciste, moi je veux bien, je sais pas trop ce que ça vient faire là au milieu, c'est une catégorie de pensée qui vaut beaucoup plus référence à l'Europe qu'autre chose. Mais ce que je vois, c'est qu'en fait, il a cassé l'espèce de maladie mentale de la classe dirigeante américaine. Nous sommes les plus forts, il n'y a personne en face. Dès l'instant où il dit ben, « on n'est pas si fort que ça, et il y a des gens en face », donc il est plutôt dans la situation de l'homme d'affaires qui négocie. On verra. Je prends le risque de mettre l'hypothèse sur le terrain.
Ouais.
Parce que, alors, les jours qui viennent pourront me démentir, mais on sent bien qu'on va plutôt dans ce sens. Alors je reviens à cette agitation fébrile de notre équipe démocrate surexcitée pour les quelques derniers jours qui lui restent. Alors ça s'est manifesté d'abord par la décision du cessez-le-feu au Liban. Alors arrêtons-nous sur cette énorme farce, le cessez-le-feu au Liban. Le cessez-le-feu au Liban a été décidé par Joe Biden, hein, ça c'est clair. Bon. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui commande et il y en a un qui obéit. Ça clarifie au moins la situation. Bon. À partir de ça, il a été dit, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce cessez-le-feu au Liban ? Il y a le fait que l'armée israélienne doit se retirer du Liban. D'ailleurs, elle, en fait, en faisant le bilan des 60 jours, je crois, d'activité militaire de l'armée israélienne autour du Liban, ils n'étaient pas allés bien loin, ils avaient plutôt fait des espèces de sauts de puce et ils étaient revenus. En fait, ils n'ont contrôlé rien dans le Liban sud. Et donc là, ils se retirent parce qu'en fait, militairement, ils ont plutôt beaucoup souffert.
Ouais.
En nombre d'hommes, en nombre de chars, etc.
Ouais.
Bon. Ensuite, on dit, c'est l'armée libanaise qui va venir faire le cordon de sécurité entre cette armée israélienne qui décidément ne va plus rentrer, et puis le reste des Libanais. Alors l'armée libanaise, je parle bien de l'armée libanaise officielle, est une armée qui est équipée par les États-Unis avec du matériel qui a 50 ans d'âge, du matériel de la guerre froide, hein, donc, qui est totalement inopérante, qui donc est une espèce de... C'est un huissier qui pourra dire « Ah, j'ai vu passer un Israélien, là j'en ai vu passer deux, là ils avaient ceci, ça n'ira pas plus loin ». La FINUL de l'ONU a disparu dans l'opération, elle n'existe plus. Alors la FINUL, je rappelle, Force d'intervention des Nations Unies au Liban, créée en 1978, depuis un certain temps, 10 000 hommes, dont 400 ou 500 Français en particulier, étaient chargés justement d'éviter qu'il y ait des intrusions étrangères sur le territoire du Liban.
Bon.
Elle ne faisait rien, et là, on n'en a plus parlé. Et puis, ce qui était important, et ça, c'est dans la décision de M. Biden et de son équipe, c'est-à-dire, le Hezbollah doit s'en aller. Le Hezbollah doit s'en aller. Il doit s'en aller de là où il était, parce qu'effectivement, ses capacités militaires ont été très, 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 très bien exploitées, et il a fait beaucoup de mal à l'armée libanaise, qui a, je dis, pas pu avancer réellement dans le territoire libanais.
À l'armée israélienne.
L'armée israélienne, oui.
Ouais.
Bon. Voilà. Alors... Première analyse. Donc, Biden décide, et il décide de mettre une armée d'interposition qui est incapable, l'armée libanaise, et il sait très bien qu'elle est incapable, puis c'est lui qui lui fournit des armes de mauvaise qualité. Et puis, il dit surtout, il faut que le Hezbollah se retire vers le nord et qu'on ne le voit plus. Et ce qui se passe alors...
La preuve en est actuellement,
ouais.
C'est que l'armée israélienne, avant, elle rentrait à Beyrouth en 24 heures.
Oui, oui. Eh ben là,
et
il
maintenant, il y a plus de 14 mois pratiquement, ils n'ont même pas fait 50 mètres.
Voilà, voilà. Ils ne peuvent. Alors, là, et Israël en est réduit à ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire que, moi je lisais des chiffres qui sont assez ahurissants, les bombardements israéliens sur le Liban, avant l'opération de ces derniers mois, pouvaient atteindre 200 ou 300 par an, c'est-à-dire quasiment tous les jours, il y avait un bombardement israélien sur le Liban,
sur
à quelque endroit.
Bon. Ouais.
Donc, il n'y a pas de changement. On tue des civils, c'est la politique de Netanyahou, on a compris, mais ça ne change rien profondément. Alors, le paradoxe assez étonnant, c'est que le Hezbollah est resté tranquille quelques jours. Mais en fait, ce qu'il a fallu voir, c'est les images de toutes les personnes, toutes les familles donc, du sud Liban qui étaient parties au moment des combats, qui étaient parties vers le nord, sont revenues, drapeau du Hezbollah en tête, par convoi entier, pour rentrer.
Une heure après l'armistice.
Oui, pour rentrer.
Une heure après, ils sont...
Voilà. Ça veut dire qu'ils avaient compris que bon, ça n'allait pas aller bien loin, ouais. Et qu'Israël allait se calmer. Alors ce n'est pas vrai parce qu'Israël tente aussi des petits mouvements, continue à bombarder, mais apparemment depuis hier ou avant-hier, le Hezbollah se mit depuis le nord du Liban à retirer sur Israël.
Alors que les colons israéliens n'ont pas, jusqu'à présent, ne sont pas rentrés chez eux.
Voilà. Alors c'est ça la situation. Alors la situation farce, donc Biden annonce cesser le feu, il décide à la place de Netanyahou, parce que formellement c'est pas les États-Unis qui sont en guerre au Liban, bon, ne trompe plus personne, hein. Et puis il se passe rien de ce qui est prévu, et l'idée c'était de dire, il faut que le Hezbollah s'en aille, parce que M. Netanyahou et son ministre de la Défense trouvent que vraiment, ils sont vraiment trop durs à cuire, hein, et plus ils sont loin, mieux c'est. Bon. Je pense que c'est raté au bout de 8 jours d'expérience, comme Israël lui-même viole le cessez-le-feu. Alors, ce n'était pas un cessez-le-feu, c'est une espèce de trêve, une trêve qui dit mal son nom. Ça ira pas très loin. Ce que ça a permis quand même, c'est de déplacer l'intervention de l'armée israélienne et l'intervention de l'Occident sur le nord. Sur le nord, c'est-à-dire sur la Syrie.
Ouais.
Parce que militairement, malgré la résistance du Hezbollah, le Liban, ce n'est pas une cible très très intéressante. Parce que c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de ressources naturelles, etc. Pas de pétrole, rien.
Pense aussi qu'il faut protéger le Nord, parce que la France...
Voilà, il y a ça. Alors effectivement, M. Macron a réussi à glisser une carte dans le jeu de Biden et de la trêve. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais parce que voilà, c'est des vieilles histoires, des vieilles histoires.
Ouais,
Ce qui se passe, c'est que maintenant, donc la situation, vous l'avez tous suivi, a évolué, puisqu'on en est maintenant dans une attaque directe sur la Syrie elle-même. Alors la Syrie, il faut la resituer dans l'histoire du Moyen-Orient et de l'arrivée de l'État israélien, c'est-à-dire que depuis 1947, très précisément, au moment où l'Assemblée générale de l'ONU, des 56 membres de l'ONU qui se réunissent au mois de novembre 1947 pour décider du partage de la Palestine entre l'État d'Israël nouveau et l'État palestinien toujours pas constitué, il y a un opposant clair dans la région qui est la Syrie. La Syrie, depuis 1947, n'a jamais changé de position en disant « ils n'étaient pas chez eux, c'est une colonie de l'Occident et nous, on est opposés ». Ce qui explique que la Syrie soit très mal vue, à l'inverse d'autres régimes arabes qui sont beaucoup mieux vus parce qu'ils sont beaucoup plus tolérants par rapport à la politique du gouvernement israélien. Voilà donc ce qui se passe, et ça a été prévu parce qu'on sait que dans les jours précédents, la semaine dernière, je crois la semaine précédente, le chef des services de renseignement israélien, le Shin Bet, bien connu, était allé rencontrer le chef des services de renseignement turc, le MTI, pour parler de la situation. Et donc c'est ces deux messieurs qui ont mis au point l'attaque contre la ville d'Alep et contre la ville d'Idlib qu'on a vu se développer ces derniers jours. Alors il s'agit bien d'une opération turque.
Et Hama aussi.
Voilà, et Hama. Il s'agit bien d'une opération turque concoctée entre la Turquie, clairement, et Israël pour essayer, enfin de faire tomber ce gouvernement syrien qui est le seul véritable opposant arabe depuis les origines à la constitution de l'État Israël et à sa politique.
Alors que Erdogan, il a toujours dit clairement qu'il est contre l'occupation de Gaza et contre la guerre au Liban.
Oui, oui. Ah oui, ça n'empêche pas.
Ouais. Et par là, par contre, là, il a aidé Israël. Enfin.
Ah oui, là, ouais. Non, il est complice au plus haut degré. Au complice, c'est-à-dire voilà. Que la majorité. Alors, qui vient prendre Alep et Hama et Idlib? À Idlib, ils étaient déjà installés. Mais qui vient? C'est des djihadistes, donc des terroristes islamistes qui sont recrutés un peu partout dans le monde. On dit qu'il y a des Ouïghours, qu'il y a des Turkmènes, il y a des Ouzbeks, etc. Bon, on connaît les recrutements.
Même les Ukrainiens.
Oui, et les Ukrainiens en prime.
Voilà. C'est bizarre,
On trouve toujours, moyennant en finance, avec des salaires payés en dollars, rubis sur l'ongle, tous les 30 du mois, il n'y a pas de problème, on trouve toujours des djihadistes. Bon, ces djihadistes, moi j'insiste là-dessus, la façon dont ces gens-là utilisent le Coran et l'islam, c'est dramatique pour les autres musulmans.
Ouais.
La majorité du milliard de musulmans, elle n'est pas sur ces positions-là. Donc les gens qui utilisent la religion, si même ils sont croyants, j'en sais rien, mais pour faire le genre de travail qu'ils font, font beaucoup de mal à la totalité du monde musulman. C'est comme si, enfin, on a déjà vu ça dans la chrétienté. Où
c'est des croyants musulmans, soi-disant. Mais en même temps, bon, il y a le Hamas, c'est des musulmans.
Oui, oui.
Au Liban, le Hezbollah, c'est des musulmans. Or, là, ils aident au maximum l'État d'Israël
D'ailleurs, effectivement, c'est un critère, si vous voulez. Si vous voulez juger de la position de tous ces groupes djihadistes, là, on parle surtout du groupe Al-Nosra, qui était connu comme étant un ami de Laurent Fabius, mais j'y reviendrai. Donc, ces groupes-là se revendiquent de l'islam, et en fait, à aucun moment, ils n'ont dit ou même écrit une parole en faveur des Palestiniens. Jamais.
Voilà, jamais.
Ouais. Jamais.
Voilà.
Donc, c'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Ce sont des agents de
l'impérialisme. Il y a une autre chose que je voudrais dire.
Dis.
Que l'Occident et l'Amérique, ils appellent en disant que c'est l'opposition syrienne qui... Une opposition armée. Est-ce qu'il y a des oppositions armées en Occident ou en Amérique?
Non. Voilà. Donc,
Terroristes.
Moi, je souhaite que tous les musulmans sincères disent « Attention, ne nous confondez pas avec ces gens-là. Ces gens-là sont en train de faire du mal à la religion qui est la nôtre. C'est des mercenaires de l'Occident, c'est tout. Hein. » Leur attitude par rapport à la Palestine est claire. Ils s'en moquent de la Palestine puisqu'ils travaillent avec Israël tout le temps. Voilà. Donc,
il y a même eu des prisonniers qui ont été soignés en Israël.
Tout à fait. Voilà. Ou bien en Turquie, d'ailleurs. On savait que les blessés qui sortaient d'Idlib remontaient. De toute façon, on sait que la Turquie abritait un certain nombre de ses combattants dans des camps. Ils se refaisaient une santé, on leur redonnait de l'équipement, des munitions, et ils repartaient sur Idlib pour continuer leur activité. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, depuis que la Russie était à l'appel du gouvernement syrien était venu sur place, il y avait une espèce d'accord sur « vous êtes là dans Idlib », donc une ville à l'ouest, une petite ville à l'ouest d'Alep, mais vous restez tranquille. Et il y avait effectivement une espèce de cessez-le-feu qui marchait plus ou moins bien. Puis là, bon, le cessez-le-feu a volé en éclats parce que M. Erdogan a pris franchement position en faveur d'Israël. Et je pense que M. Erdogan a pris des risques. C'est-à-dire que M. Erdogan, à force de, comme on dit grossièrement, de manger à tous les râteliers, il y a un jour où ça ne marchera plus. C'est-à-dire que qui peut avoir encore confiance, quelque chef d'État qu'il soit occidental, pas occidental, en M. Erdogan? Personne, à mon avis. Personne, parce que M. Erdogan est toujours prêt à renier sa parole, à dire « Ah oui, mais je suis dans l'OTAN et je suis dans les BRICS ». Ça ne veut rien dire. On va voir d'ailleurs, il a été mis dans la catégorie BRICS 2, hein, dans les nouveaux amis des BRICS, mais je pense qu'ils vont le surveiller de très très près. Parce qu'en fait, on ne peut pas à la fois aller chez les jeunes, chez les autres, tirer le
meilleur. C'est une carte pour l'Amérique, ça.
Oui, c'est ça. Ouais. Là, il s'est manifesté comme étant un vrai allié de l'Amérique, parce qu'il a pensé que le moment était venu de faire tomber le gouvernement syrien. C'était ça l'objectif depuis 2011. Et je n'insiste pas, mais c'est connu, sur les énormes souffrances du peuple syrien, sur les millions de Syriens qui ont quitté leur pays, etc. Tout ça est connu. Et donc M. Erdogan a joué ce jeu-là, il continue à le jouer, mais la riposte est commencée. C'est-à-dire qu'au début, on a eu dans les 2-3 premiers jours l'avancée de gens un peu qui faisaient une espèce de cavalcade, le pistolet mitrailleur à la main et tirant sur leur passage et faisant peur aux villageois. C'était un peu ça, une espèce de chevauchée de cow-boys dans les petites routes du nord de la Syrie. Et la riposte militaire n'était pas prête. Et donc maintenant, elle est prête et elle est en cours. C'est-à-dire qu'on a effectivement une attaque très très sérieuse donc de l'aviation russe et de l'aviation de l'armée arabe syrienne, donc l'armée du gouvernement. Et donc effectivement, on en est déjà à plus d'un millier de djihadistes éliminés par les bombardements, et probablement plus. Et il faut savoir qu'en plus, aussi bien les services de renseignement russes que les services de renseignement syriens savent exactement qui est où et à quel endroit. Donc la petite folie donc impulsée par les États-Unis à la demande d'Israël ou impulsée par les États-Unis risque de ne pas durer très longtemps et coûtera probablement très cher.
D'ailleurs, l'objectif d'Israël, c'est faire un Moyen-Orient qui leur appartient.
Voilà. Bon. Mais enfin, ça, je pense qu'on n'en prend pas le chemin. Mais on va avoir encore... voilà. Alors, à la limite... je souhaite la mort de personne, mais si effectivement on éliminait cette catégorie de combattants stipendiés par les monarchies arabes et par Israël et par les États-Unis, ça nous lèverait peut-être une belle épine du pied, parce que je rappelle que ces militants stipendiés peuvent aussi à l'occasion intervenir sur le sol français. Ah oui. C'est les mêmes. Hein. Bataclan, c'est eux. Tout ça, on le sait. Charlie Hebdo, c'est aussi. Donc, effectivement, les laisser aller venir, leur faire des chèques, comme ça, leur dire « Allez, faites ceci, faites cela et tout », c'est leur donner un poids qui est totalement inacceptable. Bon, donc, il faudrait... Et ça me renvoie à ce pauvre Laurent Fabius. Souvenez-vous, Laurent Fabius disant « Al Nostra fait du bon boulot
ouais. ».
Voilà. Donc, un monsieur qui a été Premier ministre, qui est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, dise d'un groupe terroriste qu'il fait du bon boulot, c'est inquiétant pour la République française. Hein. Alors, il y a d'autres motifs d'inquiétude, on le verra demain soir, parce que demain soir, nous n'aurons probablement plus de gouvernement, en attendant qu'on en ait un autre. Je ne sais pas, alors la situation française est très ouverte, mais M. Macron est en voyage à Riyad pour parler de l'eau. C'est un beau sujet, il pourra faire la une des journaux télévisés comme ça, et on ne parlera pas de M. Barnier. M. Barnier, de toute façon, je ne vais pas verser une larme sur lui. Il savait où il allait, je ne sais pas quelle mission précise il avait, mais je pense qu'il n'avait pas d'illusion, et puis c'est un monsieur à son âge, on n'a pas d'illusion de carrière. Il a peut-être pensé rendre service, il a peut-être, on verra comment les choses vont se passer.
D'accord, rendre service à qui ? À Macron ?
peut-être. Alors, et puis, voilà, tout ça montre cette situation extrêmement agitée.
Extrêmement.
Alors, il y a un autre endroit où c'est agité, c'est la Roumanie. La Roumanie, là encore, on est toujours autour de cette mer Noire, là, qui est une espèce de marmite chaude qui bouillonne. La Géorgie, la Roumanie, l'Ukraine au-dessus, la Turquie, là, impliquée aussi, mais pas du côté mer Noire. Qu'est-ce qui se passe en Roumanie ? Alors, vous vous souvenez qu'il y a eu donc, pas ce dimanche, mais le dimanche d'avant, une élection présidentielle, le premier tour, pour une présidence, d'ailleurs qui n'est pas une présidence avec beaucoup de pouvoir, on est dans un régime parlementaire assez classique, mais quand même, ça, elle a du poids, elle existe, du poids au niveau diplomatique, au niveau des engagements internationaux, la présidence, et elle a du poids parce que c'est elle qui décide, c'est comme dans la Constitution française, c'est le président qui appelle un Premier ministre pour faire un gouvernement quand il sort une majorité parlementaire. C'est le même rôle qu'aura Macron après-demain. Le premier tour, je le rappelle, constitue une énorme surprise, puisqu'on voit arriver en tête un personnage qui était issu d'un groupe nationaliste de droite, très clairement, qui s'appelle, alors c'est trop beau, mais ça ne doit pas se prononcer comme ça en roumain, il s'appelle Calin de son prénom, Gros Calin. Ouais. Bon, alors bien sûr, ça doit se dire Calin ou quelque chose comme ça, Monsieur Georgescu, Calin Georgescu. Effectivement, alors il a été membre d'un parti nationaliste qui existe encore. Il l'a quitté il y a quelques années et ce monsieur a fait campagne. Alors on lui a reproché, il a fait campagne dans TikTok. Ben, effectivement, il n'a pas de parti, il se présente, il fait une campagne comme n'importe qui peut la faire aujourd'hui avec des réseaux sociaux. Mais on le montre du doigt en Occident. Oh, il a utilisé TikTok, c'est pas bien. Bon, comme si, alors peut-être il aurait dû utiliser Facebook, ça aurait fait plaisir à Zuckerberg, j'en sais pas. Mais peu importe. Et donc, il arrive en tête de ce premier tour des présidentielles contre toute attente. Arrive derrière lui, non pas un candidat du gouvernement en place, qui est un espèce de social-démocrate, le Parti social-démocrate roumain, mais une dame moins connue, celle Blasconi, qui est une libérale plutôt pro-européenne, mais quand même un peu dissidente par rapport au parti au pouvoir, le Parti social-démocrate, et dont la fille, alors ça je le dis parce que c'était trop beau, la fille a été retrouvée sur une photo qui a été stockée je ne sais pas par qui, avec un keffieh autour du cou. La fille de Madame Blasconi se promène dans les rues de Bucarest avec un keffieh autour du cou. Ça, c'est très, très dangereux de se promener. Politiquement, ce n'est pas correct. On ne se promène pas quand on est la fille du futur président de la République avec un keffieh autour du cou. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces façons ? Bon, désolant, absolument désolant. Bon, je passe sur l'anecdote de Madame Blasconi. On en est là donc sur ce résultat du premier tour. Et dimanche prochain, donc le 8, il y aura le deuxième tour avec les deux termes des deux candidats finalistes, donc M. Calin Georgescu et Mme Blasconi. Et puis entre-temps, hier, donc avant-hier, il y a eu des élections parlementaires pour renouveler le Parlement qui, lui, a beaucoup de pouvoir. Alors là, panorama très, très différent. Panorama très, très différent, mais enfin avec quand même beaucoup de choses assez étranges. Panorama différent puisqu'arrive en tête le Parti social-démocrate qui est au pouvoir aujourd'hui et qui voudrait bien y rester. Et puis arrive derrière le fameux monsieur Georgescu, enfin le parti qu'il a créé, qui est en deuxième position. Alors l'écart est fait, puisqu'on a entre 22 pour l'un et 18 pour l'autre, pas beaucoup.
C'est trop près, je crois. Ouais.
Et en fait, quand on regarde tous les autres candidats, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'il y aura forcément un autre tour pour les législatives, en fait, le potentiel de progrès de candidat de M. Georgescu est très très fort, et aussi bien, on aura aussi un candidat de droite nationale qui va arriver à la tête du Parlement roumain à Bucarest. Alors, j'insiste sur les mots parce que les mots ont leur poids. Quand je dis groupe de droite nationale, je pèse mes mots parce que je ne reprends pas la terminologie qui a été utilisée dans la presse occidentale, groupe d'extrême droite. Non. Alors ça, c'est déjà bon, ça reste à démontrer. Le socle électoral de M. Georgescu, c'est la paysannerie roumaine. Il est agronome, il a fait campagne dans les campagnes, si j'ose dire, et donc il a un écho dans cette partie de la classe travailleuse roumaine qui est la partie paysanne. Ça explique des voix. Il n'a pas volé des voix, il en a quelque part. Et par ailleurs, il est, paraît-il, et ça, alors c'est un péché majeur, il est pro-russe.
C'est pas ça.
Alors, il n'a jamais dit qu'il était pro-russe, il a simplement dit que la guerre en Ukraine devait s'arrêter. Alors, la guerre en Ukraine devait s'arrêter. Alors, quand on est à Bucarest et qu'on dit que la guerre en Ukraine doit s'arrêter, c'est qu'on voit, quand on est à Bucarest, d'une part, que la guerre, c'est juste à la frontière. Il y a 300 km de frontière commune. Et puis, on voit que la majeure partie des interventions armées et des fournitures d'armes pour l'armée ukrainienne, ou ce qu'il en reste, passe par la Roumanie, à l'intérieur d'une base militaire organisée par la République française à ses frais.
Avec quelques soldats.
La France a été déléguée par l'OTAN pour organiser les apports de matériel et les envois de munitions sur le territoire ukrainien pour les opérations ukrainiennes. La Pologne servait par ailleurs de l'autre côté. Le rôle de la France de Macron, il est très très clair, il est très très important. Donc qu'on soit nationaliste en disant « je me trouve au milieu d'un conflit qui n'est pas le mien, j'en ai pas besoin parce que mon pays est un des plus pauvres de l'Union européenne », donc qu'on soit pro-russe, ça ne veut rien dire. On dit « j'aimerais bien que ça se calme un peu parce qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans la conduite de l'économie de mon pays, de sa paysannerie et de l'ensemble de ses citoyens ».
Ouais, on vous accuse tout de suite pro-russe.
Bien sûr, hein. Voilà, ben c'est facile. Donc, il est classé, donc il est à jeter aux orties, etc.
On va essayer, ouais.
Voilà. Donc, on est dans les classes. Donc, ce qui va se passer est très, très intéressant parce qu'effectivement, on risque d'avoir arrivé au pouvoir, contrairement au cas de la Moldavie sur lequel je n'ai pas le temps de revenir aujourd'hui, un pouvoir qui ne sera pas tout à fait entre les mains de l'Occident. Alors, il ne sera pas pro-russe, mais il sera certainement dans le camp de ceux qui voudraient que le carnage ukrainien s'arrête. Ce qui n'est pas du tout du goût des Occidentaux, puisque, dernière information qu'il faut donner, d'une part, il est arrivé 12 chasseurs F-16 sur un aéroport ukrainien qui ont été dans la journée balayés par les tirs de missiles russes, donc ça fait 12 chasseurs de moins. Et puis, le convoi qui partait de la fameuse base française en Roumanie et qui comportait tous les missiles de longue portée américains, les fameuses attaques, et puis les missiles britanniques, les Storm Shadow, qui donc venaient de Roumanie, qui allaient arriver en Ukraine, a été passé par les armes, il n'en reste rien. Voilà. Bon. Donc, effectivement, la Roumanie est bien au cœur de la guerre.
Voilà. Même en Ukraine, je crois qu'il y a eu un référendum où la population...
Je ne sais pas si tu as entendu parler de
ce référendum-là. Beaucoup de populations ont dit « on s'arrête ».
Ils voudraient s'arrêter. Alors, je dirais peut-être deux mots sur les propositions de Zelensky, les dernières qu'on lui a permis de faire avant de l'envoyer prendre sa retraite, sont totalement stupides, puisqu'il dit « Ah ben, il faudra bien que je laisse un peu de territoire, mais je rentrerai dans l'OTAN ». Or, précisément, il sait très bien que le fait de rentrer dans l'OTAN, c'est ce que la Russie refusera toujours. Donc, c'est une position provocatrice qui ne vaut que ce qui vaut lui, c'est-à-dire qu'il pèse plus grand-chose et il est probablement proche d'une pré-retraite qui sera, à n'en pas douter, doré. Merci beaucoup, Clélie, de ton intervention. À la semaine prochaine.
Et encore, bon.
Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur. Balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines. Et nos villages abandonnés, qui furent jadis la Palestine.